la reina de Menchu. La riqueza general 49. Est-ce que 19 Canadiens s'acquittent dans le club du maintien en Ligue 1? Est-ce qu'un prolongation pénalty du bail pour la terre irlandaise derrière, même si c'est pas appliqué de cette façon-là? Ou est-ce que le droit au maintien en Ligue 1 ne se fait que pour deux périodes, soit la période hiver-automne par rapport à la période automnale? C'est intéressant que le tribunal se fasse. Sauf que, factuellement parlant, le problème ne se pose pas. L'université, au mois de mars de chaque année, fait parvenir aux différents étudiants des élus de mon université. Avec des titres qui, dans certains cas, correspondent à la loi et qui, dans d'autres cas, ont été choisis pour je ne sais quelle raison. Alors, le premier document qui est envoyé par l'Université de Montréal, en date du 1er mars, généralement tous les ans, est un avis de renouvellement de bail. Donc, on s'entend, c'est un bail, c'est un avis de renouvellement de bail. Donc, on leur dit, c'est même, dans le fond, c'est même une gentillesse de l'Université d'envoyer un avis de renouvellement de bail. Le renouvellement de bail, parce qu'en principe, c'est l'étudiant lui-même qui doit, moyennant un avis d'un mois, dire qu'il a l'intention de renouveler son bail. À l'avis de renouvellement de bail, dans lequel on explique les prix et les documents qui sont joués, on retrouve un avis de modification. Dans lequel on suggère deux choses. La première, c'est prolongation du séjour qui était donné. Et la deuxième, le bail de location au temps de l'été. J'ai beaucoup de difficultés avec les nuances de ce texte. Pour moi, la définition d'un bail, c'est quelqu'un qui occupe un logement, moyennant le paiement de loyer. Ce concept de séjour en matière de théorie qu'en matière de bail. Ce que j'en comprends, c'est que l'université considère que la période d'été n'est pas une prolongation de bail. Même si c'est vraiment une prolongation. Et qu'on le traite comme étant un commerce d'hôtel. Alors moi, je vous suggère respectueusement que la prolongation offerte pour la période est, même si l'étudiant qui est indiqué à temps plein avant de maintenir les lieux, est une offre de prolongation de bail pour une période de 4 mois. Alors, le principe de la prolongation automatique, dans la mesure où l'on envoie ce genre d'avis-là, n'est plus en jeu. Parce que c'est devenu conventionnel. Et les parties peuvent s'entendre pour prolonger un bail pour le temps qu'ils désirent. Alors, on n'a pas à se poser la question si le bail doit être prolongé pour une période de 8 mois, dans la mesure où ces documents-là sont faits. Et effectivement, joint à la vue de modification de bail, on retrouve une réponse à la modification de bail. Déjà préparé à l'avance. Où l'on dit, séjour d'été, je ne désire pas prolonger mon séjour au-delà du temps d'appel, je désire prolonger mon séjour au-delà du temps d'appel, j'entends demeurer aux résidences jusqu'au 2000. Ça peut être jusqu'au 31 2000, ou ça peut être pour une période là, plus courte, au choix de l'étudiant. On retrouve également dans le même document, la réponse à la modification de bail, une demande de location. Je lis le texte. Je demande la location d'un studio pour cette année-là. Et je m'engage à remplir et à me conformer aux exigences acquises aux étudiants. Étudiant maintenant, versement exigé, paiement subséquent comme chaque mois. Et une autre possibilité, je renonce à la location d'un studio pour cette année-là. Encore là, j'ai eu des difficultés avec le texte sur le document. Comment est-ce qu'on peut offrir en location un studio à un étudiant qui a droit au maintien à vie? Je m'interroge sur le bien fondé du texte. Mais peu importe. Je pense qu'il a été démontré que dans tous les cas qui sont devant vous, chacun des étudiants a répondu à la modification de bail. À l'exception, possiblement, quand même pas, tous les étudiants ont répondu, à l'exception peut-être de l'un ou deux, qui ont continué d'habiter, sans signer la réponse à la modification de bail. Dans certains cas, les étudiants ont prolongé leur bail jusqu'au 30 août. Et dans d'autres cas, ils ont décidé de quitter. Dans le courant d'été. Alors, à partir du moment où les avis de renouvellement de bail sont prévus et que la réponse est faite et acceptée par l'Université de Montréal, l'étudiant qui est là a droit au maintien d'un lieu et a droit pour toute période, quelle qu'elle soit, de continuer de vivre dans le studio qu'il habitait préalablement. Ça, c'est la réponse factuelle et pratique au problème qui nous est soumis. Sauf que je continue de m'interroger. J'aimerais bien si le tribunal pouvait se pencher sur la question, mais ça reste quand même perdu un coup pour la moitié de sa décision. Je pense que c'est intéressant, non seulement pour l'Université de Montréal, mais pour toutes les universités du Québec qui passent à des résistances. De ce que c'est de l'homologation de bail dans la salle de l'Université de Montréal. Ce serait inédit de la comme décision. Ce serait sûrement un idée intéressant pour nous. Que les étudiants avaient le droit de continuer d'habiter le studio qu'ils habitaient durant la période d'automne et d'hiver. Et que pour faire échec au droit au maintien dans les lieux, on se devait, dans l'optique de réparation majeure à venir, de faire parvenir les avis de réparation majeure vers le qui par là. À l'avis qui apparaît à l'onglet numéro 5 de 19 avril 2000. Alors, pour examiner si cet avis-là correspond aux exigences de la loi dans le cas de réparation majeure. Historiquement, la loi était moins sévère dans le cas de réparation majeure. On n'avait qu'à démontrer l'existence éventuelle de réparation majeure. Et la régie du logement n'avait pas de discrétion pour accorder la permission, n'a pas accordé la permission. La régie du logement ne pouvait statuer sur l'opportunité du peuple, sur le caractère raisonnable du peuple. Et c'est suite à certains ethnies, et les Shkader et les Skin en arrière, pour permettre à la Régis Gauchemin de superviser l'éviction des locataires dans le cadre des palaces majeures, de fixer des conditions qui sont justes et raisonnables, dans la mesure où vous pensez pour le foyer. Permettre aux locataires de s'adresser à la régie du logement pour que la régie exerce son pouvoir de surveillance sur une éviction qui est évidemment est en compte du principe du maintien en réalité. Il y en a beaucoup, il y a la prise de possession, il y a l'éviction dans la préparation d'affaires, il y a les codes de démolition, alors là ça c'est pas énorme, c'est le principe. De base, d'avoir sur la régie du logement, c'est le maintien. C'est pour ça qu'on doit être comme ça.
Principe de base du quotidien.
C'est ça. Appliqué par la justice. Alors, on examine la vie du 19 avril. Dans un premier temps, on demande une période de dépollution qui est évidemment plus de ça. On demande 4 mois de dépollution. Pas 4 mois, mais 4 mois de dépollution, c'est ça. Alors, en partant, un avis de ce genre-là peut-être signifie au moins 3 mois avant la date de l'évolution des pièces. La situation pourrait être différente dans un cas où les réparations sont urgentes. Vous avez l'article 1865 qui prévoit cette situation. L'article 65 dit que le locataire qui procède à ses réparations peut exiger l'évacuation ou la dépossession temporaire du locataire. Mais il doit, s'il ne s'agit pas de réparation, obtenir l'autorisation préalable du tribunal lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du locataire. Alors, 1865, dans le fond, fait référence à 1922 suivant en mettant une exception qui est le cas de réparation de chose. Alors, dans le cas qui nous intéresse, si j'ai bien compris la situation, il s'agit de réparation mixte, qui était à la fois urgente, sans laisser plus court le béton à l'extérieur, et qui était absolument pas urgent pour la rénovation du studio. Le studio étant dans le même état de coupe qu'il y en a avant. Il fallait attendre 3 mois de plus, si on avait envoyé les 3 mois. Car je pense que ce moment-là, 1922, souvent, ça a été vraiment, indépendamment de l'aspect de l'urgence de l'extérieur. Parce que la vie du 19 avril inclut à la fois les réparations du studio et les réparations du domaine de l'extérieur. Alors, on s'entend d'abord la vie qu'il y a. Deuxièmement, le texte même de la vie comme tel s'impose. Un étudiant qui est en examen qui reçoit ce genre de vie. Alors, je ne sais pas vraiment de quelle façon il peut réagir. On dit, et je vais le faire à la fin du premier paragraphe de la question, tous les locataires de la province, sans exception, devront quitter leur studio selon les délais exigés par la prison. Suggère pas, si vous voulez, les bonnes relations entre locataire et locataire, qui est à la base de la loi sur la conciliation entre locataire et locataire qui existait. On ordonne, au moins c'est pas, on ne dit pas, on ordonne, on est de l'Université de Montréal, on a des étudiants qui sont en examen, qui sont les gens, dans le fond, au niveau d'une demande de ce genre faible, et on leur dit, vous deux. 4-4, on était plus compétitifs. On a dit, ouais, on vous a demandé de quitter, mais il n'y allait pas là. On dit, nous sommes conscients que cette période est relativement courte. Pour tout ce remue-ménage, on est content sur la collaboration de tout hein, chacun pour mener à bien l'opération. Et on en profite, et on va plus loin ça, et j'allais aller un petit peu plus tard, mais j'ai quand même vous mentionner les deux maintenant. Pour faire accepter un changement au règlement, que l'on qualifie d'annexe, qui était joint à la vie de préparation majeure, et on laisse encore là un nuage de menaces en s'exprimant de la façon suivante. À ce jour, nous n'avons confirmé aucune attribution de studio de la Cour Ouest, puisque nous souhaitons saisir les locataires visés des nouvelles modalités de location de ces studios avant qu'ils aient confirmé leur choix. Et on continue en disant, afin de privilégier l'occupation du studio que vous occupez actuellement, et ainsi, pour pouvoir compléter votre dossier de la prochaine année académique en bonne et due forme, nous vous demandons de compléter et retourner l'annexe les nouvelles conditions afférentes au bail des locataires des studios de la Tour Ouest que vous trouverez ici incluses. La dite entente devra nous être retournée d'ici le 30 avril. Alors, c'est faire une perte de coup. C'est profiter d'une occasion où on ordonne de quitter pour l'asile et si vous voulez réintégrer, signer l'annexe. Je vais y revenir. Alors, quel est l'avantage d'envoyer quel est l'avantage pour un étudiant de recevoir un avis de réparation majeure et pourquoi est-ce que le législateur oblige le propriétaire à envoyer ce genre d'avis de réparation majeure? 1.19.22 d'abord prévoit que le locataire se voit offrir une indemnité, ce qui n'a pas été fait dans l'avis du 19 avril. Deuxièmement, le locataire de façon à planifier son temps, son travail, son énergie, dans le cas d'une évacuation de plus de 200 ans, se doit de savoir un peu pour moi, je vais mettre 19-23. Le 19-24 permet au locataire, dans le cas où l'indemnité offerte en fonction du 19-22 est insuffisante, de s'adresser à la régie du logement pour obtenir une indemnité supplémentaire. Le 19-25 prévoit que dans le cas où le locataire ne répond pas à l'avis de réparation majeure, il est présumé avoir refusé de quitter pour la période suggérée. Et à ce moment-là, le devoir et l'obligation du locataire est de s'adresser à la régie du logement pour que la régie du logement statue sur l'opportunité de l'évacuation. La demande du locataire suspend les travaux et permet à la régie, en version 1927, de déterminer les conditions justes et raisonnables de tel départ, de fixer l'indemnité, de vérifier le caractère raisonnable des permis, les conditions et la nécessité d'évacuation. On envoie un document le 19 avril qui, selon les différents témoignages, a été reçu le 20 ou le 21 avril de la part de la période. Pour la période de l'homme, et demandant des évictions en période des années pour les étudiants politiques en particulier et les HPC. C'est évident qu'on leur dit, écoutez, même si nous penchons exceptionnellement sur les cas particuliers, mais on reçoit quand même, c'est évident. On doit faire des rapports. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est une période des années. C'est très intensif, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos choses, Et pas être distrait au même titre que lorsque vous préparez votre doigt libre à l'égide du logement.
Voyage.
Déjà le voyage. J'avais eu des difficultés hier à m'occuper d'un déménagement, ou d'avoir le souci d'un déménagement. C'est la situation dans laquelle on est passé, je suis. On ne respecte absolument pas aucune disposition de la loi. Plus que ça. David est hors délai, donc illégal. L'éviction n'aurait pas dû se produire. Les gens n'avaient pas dû déménager. Mais j'ai posé la question. Si ce n'est pas envisageable de ne pas déménager suite à la justice générale, est-ce que vous auriez envisagé l'éventualité de ne pas déménager? Alors, je pense que dans l'ensemble, les gens ont une fonction. C'est intéressant, il faudrait déménager. Il faudrait d'autant plus déménager qu'il y en a deux qui ne sont pas déménagés. Dans un premier cas, on demande à se changer de vie. Et dans le deuxième cas, on a envoyé des agents sécurité. De la loi qui prévoit que dans le cas où le locataire accepte de déménager, c'est à lui de se présenter dans le registre du logement pour 1926 de modifier ou de supprimer les conditions du logement. Est-ce qu'on peut prétendre que les locataires vont accepter? Ou est-ce qu'on peut plutôt prétendre que les locataires ont été contraints? Si je viens de l'extérieur. Et généralement, les résidences ne sont pas habitées par des gens qui demandent à Montréal. Alors, je vous soumets qu'au niveau des demandes sur lesquelles vous allez devoir statuer, l'aspect de la vie, l'atmosphère dans laquelle ces choses sont faites. Les contraintes imposées par la vie. L'aspect dictatorial de la vie du 19 avril sont des facteurs qui permettraient d'accorder soit des dommages de groupe, des dommages médicaux, des dommages exemplaires. C'est tout pour une situation. J'ai demandé au représentant de la communauté de Montréal si. Savait qu'il devait respecter certains détails avant d'envoyer ses billets. La réponse est affirmative. Mais ces gens-là étaient venus lui dire. Par un problème d'autofinancement des travaux à venir. C'était mélangé, je vous le soumets, par une mauvaise planification des différents travaux. Et on est au courant depuis la fin 98 et le début 99 qu'on a l'intention éventuellement de procéder à des travaux sur les façades extérieures et de réorganiser l'intérieur des studios. Pourquoi attendre jusqu'à la fin 99 devais, pour engager un consultant, qui lui va me dire éventuellement quel sera l'échéancier. On reçoit, on accepte les soumissions à la toute dernière minute. Si mes notes sont présentes, on a engagé la compagnie Carolex, on a accepté la soumission de la compagnie Carolex le 23 mars. Celle d'un nom dont j'ai mal compris, j'avais compris Jarco comme nom, là, c'est ça. Là. Qui lui se devait de faire des rénovations intérieures. Et on a accepté une meilleure soumission le 2. Pourquoi prendre tout ce temps-là? Pourquoi ne pas planifier à l'intérieur d'un année 99 tous ces travaux-là? Aviser des étudiants avec un de voir moi, leur permettre de s'adresser à la vie du logement. Ou de ne pas s'adresser à la vie du logement, de permettre de planifier leur déménagement et leur résidence. Et je pense qu'il y a une faute grave, faute lourde, de la part des représentants de l'Université de Montréal à ce niveau-là. Également que la décision définitive de Place Avignon pour la voie internée en février 2020. En fonction des contraintes qui se sont imposées eux-mêmes. Alors, je comprends que le 19 avril, on s'est dépêché à envoyer un mail. Et que on allait plus facilement le faire dans les délais du travail. Maintenant, j'aimerais traiter de l'annexe qui était jointe à la réparation de Mme Macaille nous a informé que les règlements qui étaient joints aux aides de situation de base et expédiés à chacun des étudiants étaient des règlements qui entraient en vigueur au premier mai de chaque année et qui étaient pour être en vigueur pour toute l'année. Alors, on peut modifier des règlements annuellement ou au renouvellement du bail. Dans le même sens où on peut modifier le bail. Donc, le règlement fait partie intégrante du bail. Il peut être modifié en fonction d'un avis de modification du règlement. Dans les délais prévus par la loi, peut être contesté dans l'arrêt du logement, au même titre qu'une augmentation de loyer. Et il est en vigueur pour la prolongation. Strictement, techniquement parlant, l'annexe que l'on demande aux étudiants ici, le 20 avril, et Mme Macaille nous l'a dit, est une modification à l'élément déjà existant. Je pense que M. Dubard ne pourra pas nier cette situation-là. On a pu modifier un cours de bail. C'est ce que l'on a tenté de faire en faisant signer l'annexe. Comme tel, un cours de bail. Et plus que ça, on ne respecte pas les délais. Et on menace de façon voilée les étudiants de ne pouvoir récupérer leur séjour dans la province s'ils ne signent pas sa déclaration. Et la plupart des étudiants sont venus témoigner à le fait qu'ils vont signer parce qu'ils voulaient retrouver leur séjour dans la province. Et je voulais faire à la dernière phrase de l'annexe en question, dans le rectangle. De ce fait, le service des résidences se réserve le droit de les relocaliser dans un studio de son choix. Monsieur Grégoire vous a parlé de l'importance de la vie communautaire à l'intérieur des résidences. Il vous a mentionné que chaque étage constitue un quartier. On est dans cette situation où ce sont de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui sont loin, en principe, de chez eux, qui décident d'aller vivre dans une pièce qui est grande comme un cabanon, par exemple. C'est tout petit. Je vous soumets respectueusement un peu dépourvu, émotivement parlant ou en fonction de l'ouvrage. Alors chacun est venu témoigner du fait qu'il est important pour eux de retrouver leur sujet. Chacun n'a pas nécessairement été éloquent sur les motifs pour lesquels il désirait retrouver le studio. Mais je pense que M. Grégoire était le plus clair là-dessus, en nous précisant que c'est bien important pour nous, c'est une vie de quartier. C'est important également de personnaliser les endroits dans lesquels on demeure. Ça peut ne pas être important pour un locataire ordinaire de ne pas pouvoir l'afficher. Mais pourquoi c'est important? Ça humanise, si vous voulez, les locaux. Allez. Ça les personnalise et ça leur permet d'avoir un entourage qui leur permet de plus facilement, si vous voulez, de peut témoigner de chez eux et de passer à travers les années scolaires. L'annexe des menaces de ne pas pouvoir intégrer. Il y a même une étudiante qui vient vous dire à un moment donné. J'ai enfin fini par trouver un étage qui me convenait. Pourquoi? Parce que cet étage-là qui est pareil à l'étage qui est en dessous ou qui est en dessous pour le principe de vie quartier, pour le principe d'un entourage, pour le principe des amis, de la solidarité sur un même plancher. On vous dit, si vous ne signez pas le règlement, on va vous reloger ailleurs. C'est important pour vous de reloger ailleurs. C'est dommageable de ne pas reloger ailleurs. C'est important de retrouver le quartier. Et je pense qu'agir de façon, de cette façon-là, la méconnaissance, de mauvaise foi, et d'abus carrément d'un droit que l'on a. Sérieux, l'article 1980. Ce qui pourrait permettre de faire fi des dispositions d'ordre public, de relever à son gré les gens avant qu'on en sait l'importance pour eux d'avoir une prolongation de balle dans le même endroit. Je vous soumets que, en quoi il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet, mais je vous soumets que l'article 1980 n'est pas soumis. Et me référant au commentaire du ministre de la Justice, sur la portée de l'article 1980, les MS. Le second alinéa permet à l'établissement d'enseignement, pour des motifs sérieux, de reloger à l'heure la personne aux études, jusqu'au long service et l'article, afin de, faciliter une meilleure gestion de crise. Je peux comprendre. Lorsque l'étudiant est informé, comme par exemple les étudiants du 24-42, de l'annexe, qui signent des ententes, à l'effet qu'ils acceptent que pour la période d'été, leur studio soit loué à des touristes. L'acceptation de touristes pour la période d'été permet un revenu supplémentaire. Je peux comprendre ça. Mais est-ce qu'on peut se servir de cet article-là pour, à votre avis, sans qu'il y ait d'entente ici? Parce que c'est facile de dire, écoutez, moi je fais ça pour une meilleure gestion des résidences. Mais est-ce que ça peut couvrir toutes les situations? Est-ce qu'on ne doit pas quand même respecter les dispositions de la loi en matière de logement locatif? Comme je vous dis, je l'accepte pour les gens qui ont des ententes, mais les gens de la Côte-Ouest, à ce que je sache, n'ont signé aucune entente. Alors, les gens du 24-42, possiblement de Pérez-Carvin, ça je m'en souviens pas, ont signé ce genre d'entente. Alors, je vous souviens que ce n'est pas un article qui est une ouverture à toutes les exigences, désirs, volontés ou souhaits des résidences de l'Université de Montréal de reloger les gens un petit peu partout à l'église en suggérant que c'est dans l'optique d'une meilleure gestion. L'argumentation que je viens de vous présenter se situe d'abord et avant tout au niveau de la réclamation des dommages. Sous trois têtes de chapitre. Dommages moraux, dommages principaux, dommages exemplaires. Maintenant, au niveau de la réduction de loyer. Je pense qu'il vient clair que la Cour a démontré que les gens avaient été dérangés. Et par le déménagement, et par les travaux qui se sont suivis. Pour analyser, si vous voulez, ce qui est à la base d'une diminution de loyer, je vais d'abord vous soumettre un texte de Thérèse ou ce qu'on veut. Vous connaissez ça en fait déjà. Comme je l'ai mentionné, ce n'est que pour un réfléchissement. Vous le principe est bien simple. Vous payez 100, vous avez droit à 100. Vous payez 100, vous avez 5 ans, on doit réduire de 5 ans. Alors, de façon plus sophistiquée, je vais vous lire certains passages pour le document de l'État.
On admet ça de l'autre côté.
Ça,
vous n'avez
pas besoin d'insister,
c'est OK.
C'est un obligation garantie, c'est 1852,
l'alinéa 2.
Aucun problème
avec ça.
Quant à la diminution de loyer, oui.
Parfait. Alors, c'est le principe d'accepter. Sans refaire le tour des témoignages, je ne sais pas si c'est chacun, j'ai tenté de focusser, si vous permettez l'expression, sur certains dérangements ou déménagements que ces gens ont. Alors, on a entendu que la plupart des gens de subir deux déménagements. Entendu les témoignages sur le nombre de chers lieux existants offerts par la direction et sur les difficultés que ces gens-là ont eues pour déménager. Il est évident qu'il y a eu de nombreux témoignages sur le bruit, la poussière, la chaleur excessive. Ces gens-là étant dans l'impossibilité durant une période d'été, ils ne doivent même pas assez à ouvrir leur chasse. Ils ont eu des problèmes avec les transferts d'appels, il y en a mail qui sont dans Xbox à cause de ça. Également des problèmes de boîte vocale. On s'est senti frustré et injurié dans le sens où on était insulté, dans le sens où on était obligé de déménager rapidement alors qu'il pourrait s'entrer à quel pas. Dans bien des cas, vous avez eu des témoignages à l'effet des chambres offertes dans la Touras, qui étaient en très mauvais état. Problème de courrier. Il y a des gens à cause du courrier et à cause des problèmes de boîte vocale et de transfert d'appels qui ont perdu des occasions de travail dans l'État. Même des occasions de stage dans certains cas. Il y a des manques à gagner, des pertes d'emploi. Des gens qui se devaient d'aller dormir à l'extérieur, d'aller vivre à l'extérieur durant la journée. Il y en a un qui, probablement, que, lui a déjà entendu ça, mais a assimilé les marteaux piqueurs de M16. Il y en a un autre qui nous a expliqué qu'il y avait eu des problèmes de remise de thèse. Les gens n'entendaient pas les TV, n'entendaient pas le téléphone. En particulier la réintégration ne s'est pas fait au fur et à mesure où les studios étaient prêts, mais que l'on a préféré durant la période d'été le louer dans un premier temps à 150 étudiants et le louer dans un deuxième temps à 450 étudiants touristes plutôt que de permettre aux gens de retrouver leur quartier et de retrouver leur studio au fur et à mesure à l'achèvement des travaux. À l'échéancier de terre, en ce qui concerne la fin des travaux par le temps. Ça aurait également terminé à partir du moment où les grues de la tour ouest se sont transportées à la tour est, que ces gens-là puissent bénéficier d'un peu de repos dans la tour ouest. Sur le fait que, évidemment, plus on est moins, plus c'est. Moi, ça me dérange. Alors, comment on fait le masque d'une obligation de garantie? Ces garanties-là n'existent pas. Le loyer doit être diminué. Les travaux ont débuté le 8 mai. Et ils se sont prolongés, à ce que je sache, jusqu'au mois d'octobre. C'était avec moins d'intensité vers la fin. Mais il y a quand même eu des travaux jusqu'à cette date-là. Évidemment, quand vous avez déjà statué dans bien des cas, il nous est pratiquement impossible de déterminer si un locataire est plus prejudicié par ce qui s'est passé qu'un autre locataire. Dans ce moment, entre autres, vous faites référence à une dame qui avait 100 ans. Et par rapport à d'autres locataires qui notamment n'étaient pas dans cette situation-là. Et la réponse que j'ai à l'effet que